now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 décembre, vous êtes bien sur écoute et c'est Noël, Nicolas, ça y est.
Eh oui, Cyril, c'est officiel, c'est confirmé, aujourd'hui c'est Noël et la fête continue en fait.
Mais oui, la fête continue avec nous notamment. Alors on va vous proposer un conte de Noël, enfin pas vraiment un conte de Noël mais un conte. Et un conte c'est toujours chaleureux, ça fait penser aux fêtes. Et donc c'est un conte de Sam, donc Sam des contes d'Albatros. Et il nous avait concocté ce petit conte pour la deuxième nocturne de Surécoute, c'était le 27 novembre. On vous laisse en compagnie de Sam tout de suite dans Surécoute sur Radio Campus Rennes.
Attention, vous êtes sur écoute.
Oui, tout à fait. Je vous ai sélectionné un petit conte ce soir, un conte un peu particulier qui mêle l'absurde au rigolo, qui parle d'argent, qui parle de procès et qui parle d'une pierre. Tout de suite, le procès de la pierre. Le jeune saltimbanque avait son manège bien rodé. Il allait faire dans une ville quelques cabrioles, tours, quelques petits tours de passe-passe. Il mendiait quelques pièces et ces pièces lui servaient à aller jusqu'à la ville suivante. Avec ces pièces, il pouvait s'acheter un lit où dormir, peut-être une personne pour réchauffer ce lit et quelque chose à manger pour réchauffer son estomac. Puis il repartait, mendiait quelques pièces, allait jusqu'à la ville suivante où il avait un lit chaud et l'estomac plein. Et ma foi, ce petit manège lui convenait plutôt bien. Mais un soir, il fut rattrapé par la nuit. Il avançait tranquillement et lorsqu'il se rendit compte que même à marche forcée, il ne pourrait pas arriver jusqu'au village suivant, il se dit qu'à cela ne tienne, je dormirai donc à la belle étoile. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, il lui suffisait de trouver une pierre plate qui lui servirait d'oreiller et un tapis de feuilles qui lui servirait de matelas. Ce fut vite chose faite, mais comme il était suspicieux autant que vagabond, il décida de placer les quelques pièces d'or qui lui restaient, trois pour être précis, sous la pierre plate qui lui servirait d'oreiller. Et il dormit d'un sommeil réparateur. Mais le tintement des pièces et l'éclat de l'or avaient attiré l'œil d'un malandrin, d'un voleur, et le voleur, tapi dans l'ombre, attendit toute la nuit, patiemment, que le jeune vagabond se lève, finalement au matin, pour aller faire ses ablutions à la rivière toute proche. D'un pas de loup, le voleur se leva, souleva la pierre, subtilisa les pièces, et disparut dans la nature pour ne plus jamais être revu. Quand le jeune vagabond, pimpant et fragant, revint de ses ablutions, il souleva la pierre plate pour récupérer ses biens, et là, horreur, ses pièces avaient disparu. Mais sans les pièces, pensa-t-il, je ne pourrais jamais arriver à la ville suivante avoir un lit, encore moins le réchauffer, et j'aurai le ventre vide, mais toute ma routine tombe à l'eau, et le voilà parti dans une diatribe, à crier, à appeler à qui mieux, et ses cris appellent les voisins, et les voisins appellent les voisins des voisins, et les voisins appellent les commerçants du village, et le village appelle le seigneur, et si bien que tant et si bien vite, tout le village se retrouve attroupé autour de cet Olibrius qu'il a à éructer, à qui mieux, à maudire Dieu et tous ses saints dans un charabia incompréhensible. Le Seigneur arrive finalement avec tous ses gardes pour faire justice en son pays. Jeune homme, que se passe-t-il? Quel est ce tintamarre? J'ai mes ablutions dans la rivière et que je reviens. Je ne comprends rien, calme-toi. Que se passe-t-il? J'avais posé mes pièces sous la pierre et quand j'ai levé la pierre, les pièces n'étaient plus là. Le Seigneur faisait justice en son pays et décida de prendre les choses en main. Garde, arrêtez cette pierre. Les gardes se regardèrent interloqués. La foule eut un frémissement de rire. Garde, êtes-vous sourd? Cette pierre est en état d'arrestation. Amenez-la sur la place du village, elle sera jugée pour vol. Les gardes s'empressèrent donc de s'emparer de la pierre et l'étrange procession, le seigneur, le vagabond, les gardes qui portaient la pierre plate et les badauds qui suivaient, s'approcha vers la place du village, le lieu où se tenait le tribunal. On avait rarement vu quelque chose comme ça. Il y avait cette pierre-là posée sur l'estrade de bois, le roi, le seigneur qui siégeait dans son trône, les gardes qui l'entouraient ne sachant pas très bien ce qu'il faisait, le vagabond qui s'y retrouvait encore moins, et la foule de badauds à qui un sourire amusé se dessinait déjà sur les lèvres. « Pierre, tu es jugé ici pour une affaire grave. Quel est ton nom ?» La pierre, étant Pierre, ne répondit pas. La foule frémit un peu. Pierre, d'où viens-tu ? Quel est ton âge ? La pierre, étant Pierre, ne répondit pas, et la foule commença sincèrement à rigoler un petit peu. Pierre, tu es jugé pour vol. Que plaides-tu ? La pierre, étant Pierre, ne répondit pas, et un éclat de rire franc se fit entendre de la foule. Silence ! Ordonna le seigneur. Ceci est une place de tribunal, et ceci est une décision de justice. Vous savez strictement bien qu'il est interdit de rire durant un tribunal. J'exige le silence. La foule se calma un petit peu. Pierre, je te laisse une dernière chance. En cas de silence, tu seras jugé coupable. Que plaides-tu ? La pierre, étant pierre, ne répondit rien. Eh bien, par les pouvoirs qui me sont conférés dans cette ville, je déclare cette pierre coupable. Elle sera condamnée à 30 coups de fouet et la mort par décapitation. Ce fut l'éclat de rire général. Pas une personne sur la place ne pouvait se retenir de rire. Les vieux se tordaient de rire, les jeunes se tapaient sur les cuisses. On voyait des femmes et des hommes rouler par terre dans la boue tellement ils en riaient. Et ça pleurait, et ça se tenait les côtes, et ça frappait dans les mains. Un brouhaha général sur la place s'élevait jusqu'au ciel. Et le seigneur, impassible, les lèvres pincées, observait cette foule hilare. Et il se tint coi et immobile, jusqu'à ce que le dernier éclat de rire du dernier enfant s'éteigne dans la foule. « Je vous avais pourtant prévenu, » dit le Seigneur. « Il est strictement interdit de rire durant une décision de justice. Je vous condamne toutes et tous par la présente à une amende de 3 pièces d'argent. » Là, plus personne ne rigolait. Les gens, la tête baissée et le tinquois, se mirent en rang pour aller payer leur amende. Et ils rentrèrent vite chez eux, sans demander leur reste. Le seigneur saisit la bourse pleine de pièces d'argent et se tourna vers le vagabond. « Jeune homme, dit-il, je suis seigneur de ce village et je n'ai pas pu te rendre justice. Le voleur court toujours, mais je peux au moins t'offrir un dédommagement. Prends ces pièces et continue ton chemin. » Le vagabond hocha la tête, prit l'argent et s'en alla. Le roi remit son manteau et repartit vers son palais. Ne restèrent sur la place que les gardes et la pierre plate. Ils se regardèrent un instant, échangèrent un regard interloqué et, dans le doute, donnèrent 30 coups de fouet à la pierre. Et quand vint le tour de la décapitation, ne sachant vraiment pas quoi faire, ils décidèrent d'exposer la pierre sur le bord du chemin, bien en évidence, à l'entrée du village, pour rappeler aux voleurs que quiconque s'aventure ici n'est pas le bienvenu, et que justice, si impossible soit-elle, sera toujours rendue.
Beaucoup Samuel.
Moi, franchement, moi je suis toujours assez impressionné par tes contes. La dernière fois, tu nous avais fait l'usine avec les mots qui sortent comme ça de la cheminée.
On garde les yeux rivés sur toi.
Mais en plus, amis auditeurs, vous ne voyez pas, mais les il oreilles. N'a pas de texte. Et c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'il fait cette tête. Et je sais pas comment tu fais ça. Enfin, ça fait combien de temps que
t'as une profession de conteur?
Moi, je suis actuellement conteur musicien dans une association. Donc, je travaille beaucoup avec les enfants, principalement sur les temps périscolaires. L'association D'accord. s'appelle Partout Artiste. Et okay. donc, je fais des contes beaucoup pour les enfants dans les écoles, mais également maisons de retraite. Donc, c'est pas les mêmes histoires.
C'est intéressant, quoi. Donc,
pour les assistantes maternelles, donc les moins de 3 ans, et quelques spectacles pour adultes en festival ou à la radio. Et donc, je fais des contes toutes les semaines donc, sur Radio Campus. Les contes d'Albatros qui sont diffusés le mardi à 13h30. Et le conte que je vous ai fait est un conte que j'avais glané il y a très longtemps de je ne sais plus quel recueil et que j'ai fait à la radio dans une série d'émissions que j'ai appelée « Les bons contes font les bons amis ». Une série d'émissions de contes consacrés à l'argent, à la possession et à tout ce qui est échange monétaire. Et donc vous pouvez retrouver D'accord. ça sur la page des contes d'Albatros sur le site du Radio Campus.
C'est vachement
Merci beaucoup en tout cas Samuel.
Donc on peut retrouver tes contes sur la page de Radio Campus.
Ouais, des contes. J'ai fait une réécriture du Petit Chaperon Rouge en alexandrin. J'ai fait des contes sur l'argent. Et là en ce moment je fais une lecture du texte Novecento Pianiste, qui est un monologue théâtral d'Alexandro Baricco. D'accord. Un texte qui parle de voyage et de piano.
Est-ce qu'on peut te voir quelque part sur scène?
Alors vous pouvez me voir, mais sur du conte chanté, sur de la chanson française en conte. Ça s'appelle Albaricat. Le prochain concert, c'est en français et langue des signes. On pourra en reparler dans une prochaine émission.
Ok.
Comment chanter avec les mains en langue des signes. Ce sera le samedi 10 janvier à l'avant-scène, boulevard de la Tour d'Auvergne.
Wow, okay. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Albatros? Pourquoi ce nom-là?
Pourquoi Albatros? C'est une longue histoire. C'est mon totem.
Attention, vous êtes sur écoute.
Vous la connaissez puisque chaque lundi, elle nous revient sur écoute avec ses chroniques. Mais cette fois, c'est une chronique qu'elle avait réalisée spécialement pour l'une de nos nocturnes. Et ça parle de funk. C'est bien sûr la chronique de Pauline.
Attention, vous êtes sur écoute.
D'abord, je vais vous parler d'une campagne de Radio Nova qui avait été mise en place il y a 2 ans par l'agence Young et Rubicam qui disait « L'exorcisme, c'est faire sortir les démons du corps. Le funk, c'est exactement l'inverse. » À travers ces paroles assez mystiques, quasi religieuses, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce genre musical qui a su traverser les décennies sans jamais tomber dans le ringard. Alors pour commencer, un peu d'étymologie et d'histoire. Funk, c'est un terme populaire qui est issu du jargon afro-américain et qui désignait à la base une odeur de transpiration assez forte, qui évoquait une attitude affirmée, sûre de soi et donc une marque de virilité. Donc bien sûr, le lien de filiation est indéniable avec ses grandes sœurs, la soul et le jazz, mais le funk se distingue d'elle avec une bien plus grande importance accordée aux instruments, notamment une prédominance de la section rythmique, la basse et la batterie, des gimmicks avec la guitare, des cuivres omniprésents pour les ponctuations rythmiques. Aussi, le funk est souvent le fruit d'une œuvre collective offrant un groove extensible et modulable à souhait et qui permet donc une plus grande marge de liberté pour des solos ou des improvisations. Alors, pour parler un peu d'historique, il a existé plusieurs écoles du funk. La première, chronologiquement, est née au début des années 60, puis ses racines dans le rhythm and blues, a comme QG la Nouvelle-Orléans et nous laisse un héritage de textes engagés, notamment dans la défense de la cause noire. C'est le funk de James Brown, d'ailleurs surnommé The Godfather of Funk, mais là on va écouter du Maceo Parker. Ensuite vient le funk de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, un funk qui se détache progressivement de la réalité et se voudra plus psychédélique. On pense à des groupes comme Sly and the Family Stone ou Funkadelic qui imaginaient débarquer d'un vaisseau spatial pour libérer les humains d'un monde lugubre sans funk. Et puis c'est l'époque où émergent des groupes comme les puristes renient un chouïa, un funk plus commercial, plus proche du disco. C'est celui des Cool and the Gang, des Earth, Wind and Fire et j'en passe.
C'est très bon quand même.
À la fin des années 70, les grands funk bands disparaissent progressivement car trop coûteux à produire. C'est dans le même temps le début du mixage avec des groupes comme Grandmaster Flash. Puis le funk prendra une orientation plus électronique au cours des années 80 avec des synthés qui prendront de plus en plus de place. Mais le funk, ça parle de quoi? D'amour, pardi. Qu'est-ce que le funk si ce n'est une invitation au romantisme, à la séduction, à la lascivité, au jeu de regard, à l'amour quoi. Le funk ne se prive pas de parler d'amour au sens actif d'ailleurs. Une multitude de morceaux sont parsemés de références sexuelles assez explicites. Hey Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, spunk, ça veut dire fessé.
J'étais prêt à danser dessus, moi. Même.
Mais sans jamais tomber dans le trash, le sexe n'est qu'un prétexte à la transcendance à laquelle cette musique nous invite. Hein, je le précise quand même. Voilà. Là, c'était pas le meilleur exemple, je vous avoue. Et bien sûr, la thématique ultra récurrente, c'est celle de la fête, qui nous donne des scènes de liesse collective, toujours dans cette optique de transcendance, de s'échapper de la réalité. Le funk est, par définition, fait pour être dansé. Difficile de ne pas penser à des émissions comme Soul Train, où, d'où est née, par exemple, une danse comme le cool, locking. Allez, le studio, on se trémousse. Alors l'héritage de ce genre musical, vous vous en doutez bien, il est colossal, à tel point qu'il m'est impossible de vous en rendre compte exhaustivement ce soir. Tout d'abord pour ce qui est de la culture pop, si je vous dis...
Men in Black.
Ouais, bien joué. Un autre exemple encore parlant... Et donc la suite. Ah non. Il y a eu un petit souci tactile. C'est des choses qui arrivent, mais pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'était Welcome to Miami de Will Smith.
Pas besoin d'avoir
Cyrielle encore encore Cyrielle quoi. Donc oui mes chers auditeurs, pas besoin d'avoir revêtu le pas de dev pour être imprégné de ce genre musical. Le 21e siècle en a gardé une empreinte bien réelle. Oui, je vous reconnais les joueurs de GTA.
Mais ouais, d'ailleurs c'est une série qui a une tellement bonne son, c'est un truc de dingue. Je vole des voitures juste pour écouter la musique.
Ah mais c'est ça. Ah, mais c'est ce que tu fais. Tu vas sur YouTube, tu tapes soundtrack funk GTA
et
tu
là tombes sur un
super
truc.
Super playlist avec The Beat Goes On et tout là. Ouais,
dans GTA ils ont carrément plus de stations de radio que dans certaines villes,
hein. Ouais, complètement.
Ah non, c'est dingue, c'est
et puis avec du meilleur son quoi.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et donc aussi le funk, il a grandement influencé des genres comme le hip-hop, mais il a aussi bien servi à des productions électroniques bien actuelles où certains musiciens d'ailleurs ne se gênent pas pour le sampler très explicitement. Bon, du coup, c'était le morceau qui était passé un peu au préalable. J'espère que vous avez la mémoire bien au taquet ce soir. Alors, pour ce qui est de la house, qui est un genre qui remplit bien nos clubs actuellement, il a réinventé un bon nombre de codes funky. Et c'était sans compter la démocratisation qui a été faite par des gros labels français comme Headbanger, avec des artistes comme Breakbot et ses Baby I'm Yours Fantasy qui, je suis sûre, vous ont fait danser. Mmh. Alors, le funk, il a aussi réussi avec brio le pari de s'exporter outre-Atlantique. Mais aussi outre-Pacifique. Alors je sais pas vous, mais moi le funk j'en veux matin, midi et soir, optimiste, entraînant, jamais chiant, il rend votre trajet dans la ligne C4 surchargée quasi rocambolesque, vous aide à digérer votre rupture avec Kevin en toute légèreté, vous donne une assurance d'enfer avant l'entretien d'embauche. Alors je sais pas, mais quand est-ce que vous écoutez du funk?
J'essaie d'en écouter le plus souvent possible. Ouais.
C'est une bonne chose.
Et à partir de... Bah, Ouais, en soirée, tranquillou, ouais, posé dans un canapé, c'est quand même bien. Enfin, vous posez ou pour danser un peu après, en fait.
Ah non, je suis d'accord.
Ça fait un peu.
Non, mais moi, c'est souvent la petite playlist que tu mets quand les gens arrivent, tu vois, tu mets un petit truc posé, un petit truc de funk et tout, les gens ils s'installent.
Et là, Pascal a son regard carnassier dans sa salle.
Ça dynamise une soirée, le funk. Ça, c'est.
Nous savons d'accord.
J'essaie de me battre pour la funkothérapie, donc la musicothérapie par le funk, c'est en bonne voie, je vous tiendrai au courant. Alors, je veux pas te poser une colle, mais tu pourrais nous citer des groupes de funk actuels, parce que c'est vrai que le funk, c'est souvent une affaire d'une époque bien précise, des années 70.
J'ai vraiment une mémoire de
par exemple,
poisson rouge.
Je t'en avais parlé en off. Comment il y a de très bons groupes actuels qui sont sur un label new-yorkais qui s'appelle Dapton Records et donc le Bedos Band et Menahan Street Band. Alors ça fait plusieurs infos et eux ils font du très très bon funk. Voilà, c'est une info. Voilà, que vous en faites ce que vous voulez.
Et après, si je me trompe, mais pour moi, d'un point de vue scène rennaise, les Way of Life qui
très bon Way of Life, efficace. Ouais.
Alors, je t'ai même pas présenté. Alors, c'est Sam qui vient de parler, Sam qui vient de nous rejoindre, Sam des contes de l'Albatros que vous connaissez.
Tout à fait, c'est bien moi.
Et qu'on retrouvera plus tard dans l'émission.
Voilà. Bon, bah, du coup, on va faire une petite pause funky, forcément.
Attention, vous êtes sur écoute.
Alors c'est un film que vous n'aurez pas sur vos écrans avant le 14 janvier 2015, mais finalement ça se rapproche à grands pas. On avait assisté à l'avant-première des Souvenirs. Alors Les Souvenirs, c'est un film français réalisé par Jean-Paul Rouve et adapté d'après le roman Les Souvenirs de David Fuenquinos. Guillaume s'était rendu à l'avant-première et vous pouvez le suivre tout de suite dans Surécoute sur Radio Campus Rennes.
Donc voilà, moi ce soir je vais vous parler de, des Souvenirs qui sortira en janvier prochain. C'est une adaptation du roman du même titre de David Fuenquinos, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une adaptation qui est réalisée par Jean-Paul Rouve, qui inscrit ici son troisième film en tant que réalisateur. Donc selon les canons de l'écrivain, ce film il aborde une problématique actuelle et dramatique, celle des personnes âgées et de leur fin de vie. Vont s'articuler alors autour de ce fil rouge des problématiques intergénérationnelles telles que la jeunesse, la retraite ou encore les relations amoureuses. On retrouve dans le casting des visages familiers à l'image d'Annie Cordy, qui incarne le personnage central, celui de Madeleine, une octogénaire qui tente de s'émanciper d'une réalité et cherche le bonheur, son bonheur, dans ses souvenirs. Comme trame de fond, Mamie qui fait de la résistance fugue de l'établissement dans lequel elle est placée et est épaulée dans sa démarche par le soutien indéfectible et l'amour de son petit-fils modèle Romain, interprété par Mathieu Spinozzi. Le jeune homme, écrivain en devenir, est le témoin de cette fresque de la vie autour d'une ambivalence entre le présent et le passé, avec des images qu'il collectionne et au travers desquelles il puise son inspiration. Alors c'est dans le douillet salon de l'hôtel-restaurant Le Coq Gabi que j'ai pu rencontrer Jean-Paul Rouve, Michel Blanc et Mathieu Spinozzi dans une ambiance chaleureuse. Pendant une heure, les trois hommes racontent le film, les acteurs, le jeu. Je vous propose tout d'abord d'écouter la vision de ce film par son réalisateur, un cinéma de la vie, le cinéma qui lui parle.
Parler des petites choses de la vie. Et souvent, les petites choses de la vie en racontent beaucoup plus que les grandes choses. Moi, en fait, quand, déjà, dans mon film précédent, enfin, c'est ce que j'aime. J'aime le non-dit au cinéma. C'est-à-dire que dans la vie, on se dit rarement des choses très importantes de manière frontale. C'est très rare. Ça, c'est très cinéma. Les grandes phrases. J'aime pas trop ça, moi, les grandes phrases. J'aime bien passer par du quotidien, par du rien. On va parler d'une machine à café et Michel va parler de « est-ce que tu veux un café ?» parce qu'il n'ose pas affronter les choses. Et c'est bien plus intéressant que Michel dise « tu veux un café ?» Non, t'es sûr, t'en veux pas un, il est bon ce café. Plutôt qu'il dise « c'est compliqué, tu sais, avec ta grand-mère, on va la mettre en maison de retraite, mais je le vis mal. » Personne ferait ça dans la vie. Donc ça me plaît beaucoup. Ce que j'ai dit tout de suite à David, c'est d'augmenter la comédie par rapport au livre. Et donc on a changé. Parce que je voulais rééquilibrer ça, justement. Je voulais qu'il y ait ça, c'est la dérision de la vie. Passer du rire aux larmes tout le temps, comme ça nous arrive à tous. Et tout ça pour qu'il y ait une certaine pudeur des choses. Ne pas s'apesantir quand il y a quelque chose de grave. Ne pas. Oui, la pudeur, pour moi, est un sentiment très important quand je fais un film. Ça. Je veux vraiment la vérité la plus totale. Pour qu'après, quand il y ait le film, on ne se dise pas c'est des personnages. J'adorerais qu'on ne se dise pas ça. Qu'on se dise c'est des gens qui existent, qu'on peut connaître.
Michel Blanc, lui, incarne dans le film la génération intermédiaire au travers du personnage d'un jeune retraité, gris, sans joie, au caractère proche de la dépression. Pendant tout le film, il va fuir les réalités, les choix se contentant d'un insuffisant rôle de fils. Alors, acteur de renommée, Michel Blanc, qu'est-ce qui l'a séduit en fait chez Jean-Paul Rouve ?
Ça me passionne parce que je vais vers lui, je vais dans son monde. Et moi, j'ai fait ce métier pour aller dans le monde des autres, pas pour me montrer moi. Son film, il a quelque chose en plus, heureusement. Pourquoi faire du cinéma ? Pourquoi emmerder autant de monde ? Mais il a autre chose. Il y a ce petit moment où tout le temps ça va un peu à côté. La vie, elle n'est pas exclue. Ça peut arriver. C'est pas invraisemblable. C'est pas de l'irréalisme. C'est pas du surréalisme. Mais il y a une petite dose de magie comme ça qui vient juste faire un clin d'œil. Et moi, j'adore ça. Parce que ça, c'est un univers qui est le sien, et ça, je trouve que juste, ça aurait été la vie, c'est du reportage, je rentre dans l'univers de personne, quoi, en fait, en gros. Tandis que là, non, il y a le côté, cette scène de, dans le genre, j'aurais jamais écrit ça, la scène du pompier, je l'aurais jamais écrit, c'est pas dans mon univers, et j'ai adoré le faire.
Un film qui nous a touchés par son élégance et sa poésie, il alterne des situations poignantes et purement comiques, contribuant à alléger le thème de la fin de vie qui est souvent difficile à aborder sans tomber dans le dramatique. Volonté de son réalisateur, le réalisme des personnages et leurs environnements donnent l'envie et la possibilité de s'identifier. On a envie d'être ce petit-fils très mature qui donne tant d'amour et de temps à ses proches. Et puisque dans une critique, il faut toujours un point un peu plus négatif, nous noterons alors la pauvreté des plans et le jeu des caméras qui est très basique. Toutefois, il n'altère en rien les émotions et le message véhiculé. Rappelons que Rouve, pour sa défense, c'est un acteur de formation, c'est pas un réalisateur. Donc voilà, pendant 1h30, le spectateur voyage donc dans le temps au travers des souvenirs passés et en devenir. Et comme une belle bouffée d'oxygène, nous quittons l'oppressement de la ville de Paris pour Étretat en Normandie, un film léger autour d'une problématique lourde et un problème complètement d'actualité. Au milieu d'une histoire, celle de la grand-mère, vont se greffer alors des regards différents, ces regards qui composent normalement une vie. Or, pour la fin, les petits potins, Jean-Paul Rouve nous a fait part d'un souhait d'écrire un livre, en fait, avec David Fuenquinos, un livre qui traiterait d'histoire et plus particulièrement de Seconde Guerre mondiale. On devrait retrouver Mathieu Spinozzi dans le film, dans un film, en fait, les mois prochains, bien sûr, mais également dans un rôle totalement différent, car il est violoniste de formation et il envisage prochainement une mise en scène d'une pièce musicale de Stravinsky. Et quant à Michel Blanc, il ne délaisse pas la mise en scène, mais attend de trouver un sujet intéressant. Donc le film, il sera en salle au mois de janvier 2015. Donc naturellement, au vu de toutes les remarques bienveillantes que je viens d'indiquer, je vous invite à y aller. Et avant de terminer, je fais un gros bisou à Antoine, parce que c'est avec lui que j'ai été voir l'avant-première. Donc malheureusement, il n'a pas pu être là à la conférence de presse, ni rencontrer les acteurs. Mais voilà, j'ai pas mal échangé sur lui. Il m'a aidé aussi à avoir une vision d'ensemble sur... Une critique qui a été assez pertinente, mais bon, dans ce que l'on a retenu, un beau film, et voilà, sans vouloir faire le faillot, c'était un film qui était émouvant et à la fois, qui était très très bien dosé, quoi. Super.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et maintenant sur Radio Campus Red, je vous propose de partir en douceur avec les Beach Boys, Little Saint Nick. C'est tout de suite, restez avec nous.
Attention, vous êtes sur écoute.
Comes this time each year.
Ooh.
Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the Little Saint Nick.
No one. And falling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies, and he's cruising every path with a little surprise. It's the Little Saint Nick. It's the Little Saint Nick.
Little Saint Nick. Merry Christmas, Saint Nick.
Christmas comes this time.
Attention, vous êtes sur écoute.
On a l'habitude dans Sur écoute de recevoir des confrères des autres émissions et de leur laisser un petit moment pour parler avec nous et pour nous livrer une petite chronique. Et là, on a décidé de sélectionner pour vous l'une des chroniques de J'irai cracher sur vos ondes, donc l'émission littéraire de Radio Campus Rennes. Et notamment, ils vont nous parler de Céline Dion.
Attention, vous êtes sur écoute.
Alors donc pour cette émission, on a décidé de vous parler d'un des grands auteurs du 21e siècle, parce que c'est un peu une honte quand même que vous ne connaissiez pas les grands textes littéraires. À votre avis, de quoi on va parler ?
Céline Dion !
Ah ouais !
En fait, on a voulu parler de l'hymne à l'amitié de Céline Dion, parce qu'à la radio, on est tous une grande famille. Donc on va vous faire partager notre amitié.
Et parce que l'amitié, c'est beau. Nous proposerons comme projet de lecture comment, à travers une esthétique dilatoire d'érotisme noir et de violence, Céline Dion nous propose-t-elle la transcendance d'une nouvelle esthétique.
s'il est pour toi ce que tu es pour lui. Celui qui peut t'aimer sans jamais.
Ce texte commence par se poser comme une tentative de définition de ce qu'est un véritable ami, avec le terme marquant l'hypothèse « si ».
Là, on assiste alors à une réduction du terme de l'amitié qui en devient sectaire et peu encline aux nouvelles amitiés.
Dans cette définition, Céline Dion commence d'abord par poser la condition de réciprocité. S'il est pour toi ce que tu es pour lui. On aime l'ami parce qu'il nous aime.
Et là, on retrouve Montaigne et son essai sur de l'amitié, où il nous dit qu'avant tout, on aime le regard que l'autre pose sur nous.
L'ami est unique, il se place face à la foule, il se détache du commun des mortels. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets.
Celui qui reste quand les autres t'ont déjà quitté.
Et c'est la figure chevaleresque de l'ami aux valeurs de loyauté et de grandeur morale. Cela peut nous rappeler de grands philosophes du contemporain, comme par exemple Petite Lilou du 31, qui sur Skyblog en 2001 écrit « Fuck les rageux, TMTC, seuls les vrais comprennent, bisous XXXXXXX3 ».
Je crois que t'as oublié un X. Hein. Ah, oui.
L'auteur pose les liens de l'amitié comme condition d'une existence pleine et entière par opposition à des valeurs marchandes. Si t'as réussi ta vie, si t'as un ami. Du coup, ça peut nous rappeler la Rolex de Nicolas Sarkozy.
Mais du coup, si t'as pas d'amis, t'as plus qu'à aller t'acheter une Rolex ou te suicider ?
Exactement.
Oh, super. On constate également de nombreuses références bibliques comme « Tu as déjà trouvé l'étoile du berger » ou « Donne ton pain et ta vie ».
Voilà, alors l'étoile du berger, elle fait référence à la solitude fondamentale de l'être humain qui doit trouver seul son chemin. C'est un autre grand auteur du XXIe siècle, Maître Gims, avec Sur la route.
La vie est comparée à un périple au bout duquel on voit le pardon des péchés et la sauvegarde de l'être humain. Le fait de donner son pain, son vin et sa vie nous rappelle le don contre don de Moss qui permet en fait la création de liens dans une société. Ça nous rappelle également la scène où Jésus a partagé son pain, son vin et sa vie avec Judas. On peut se demander s'ils étaient vraiment amis pour le coup.
Voilà, outre les références bibliques, il y a aussi une référence à une figure classique de la littérature, Don Quichotte et son vieux Sancho Panza. On ne peut s'empêcher quand même de relever une certaine incohérence, puisque Don Quichotte c'est un vieux fou qui se bat contre des moulins à vent et son serviteur se donne à lui-même des coups de fouet. Or, donc ça peut paraître un peu problématique de, comme le souligne l'hyperbole, changer de monde 300 fois comme Don Quichotte. Mais on va pas se risquer à avancer que Céline Dion, cette grande érudite, n'aurait pas lu Don Quichotte.
Je pencherais plutôt pour du cynisme, voilà. Leïla.
On va ensuite l'apparition de la figure d'Orphée, puisqu'il y a une injonction à chanter avec son ami. Sauf qu'Orphée, lui, il chante son aimé enfermé aux enfers, c'est le pleur du disparu. Or ici, c'est un chant de la réunion jouissive avec l'ami. Est-ce que je pars trop loin dans mes analyses sur Yves ?
Non, mais de toute façon, je pense qu'ils comprennent rien, hein. On est d'accord.
On suit. Donc on a plusieurs analogies de l'ami. On a d'abord la figure maternelle et protectrice.
S'il te montre parfois qu'il avait peur pour toi.
Ensuite on a la figure du double, du miroir, du frère.
S'il a ton rire, s'il a tes larmes aussi.
Et enfin une allusion à deux moitiés séparées.
Là en fait ça nous fait penser à Platon et le banquet où avant l'être humain avait quatre bras, quatre jambes et s'était mis à rouler vers l'Olympe. Puis Zeus énervé les a coupés en deux, donc il nous reste plus que le nombril comme cicatrice. Et puis en fait on est toujours condamné à rechercher notre deuxième moitié et quand tu l'as enfin trouvé tu peux à nouveau rouler et franchir les montagnes et devenir des dieux.
Donc dans cette gradation on a progressivement la figure de la mère, du frère puis de l'amant. Donc on sombre finalement dans une dimension complètement incestueuse d'érotisme noir teinté de mysticisme.
Pour conclure nous avons cherché à comprendre comment à travers une esthétique dilatoire d'un érotisme noir et de violence Céline Dion exposait la transcendance d'une nouvelle esthétique. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi.
Ah bah oui totalement, on a vraiment réussi à sonder les profondeurs de ce texte. Ce qui commence comme un joli et innocent hymne à l'amitié dérive progressivement vers une dimension sectaire voire incestueuse.
Mais
donc, la politique Céline Dionienne crée en fait une œuvre éminemment choquante et provocatrice.
Mais dis-moi Leïla, l'image que nous donne à voir Céline Dion, c'est plutôt une image sympathique, généreuse, mais si t'es méchant, t'as pas d'amis ?
C'est une très bonne question, Cerise.
Ah bah ma foi, oui, une question à laquelle vous répondrez peut-être avec un prochain texte décortiqué, je ne sais pas.
Alors, les filles, vous êtes complètement allumées. Hein, ça.
Sans déconner, c'est une continuité
d'émission.
Moi,
j'ai trouvé
comme ça
très cohérent, c'était magnifique. Bravo.
Je dis pas que c'était incohérent, je dis que c'était illuminé, c'est pas la même chose. C'est clairement illuminé pour le coup.
On est touché par le talent de Céline Dion.
Oh, René.
C'est bon, on peut couper la musique, je pense.
Ah ouais, c'est bon.
On l'aura dans la tête pour la soirée. Vous imaginez que je la connais par cœur quand même.
Non, mais clairement, parce qu'il faut savoir que Cerise ne lisait pas ses notes quand elle chantait Céline Dion. Je pense que c'est à préciser.
C'est la honte.
Oh la folle.
Mais non, mais non.
Non, mais déjà, vous aurez fait découvrir, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas cette chanson de Céline Dion.
Non, ça fait un peu Chantal Goya.
C'est vrai.
Ouais. Je ne connais pas grand chose de Céline Dion pour le coup. Mais...
Bon, en tout cas, ça plaît beaucoup à Julien.
Julien,
il hoche la tête, il dandine, il a tout lâché. Non,
mais
garde
Julien,
ton t-shirt. Julien, garde ton t-shirt.
Donc voilà, donc merci, merci les filles. J'espère que vous reviendrez avec des grands textes pour nous apprendre vraiment ce que c'est que la littérature à nous, un culte devant l'éternel.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et donc voilà, pour c'est déjà la fin de ce spécial de Noël. Et il y a Julien et Axel qui étaient dans les studios et qui nous ont rejoints pour cette fin d'émission. Ça va ?
Ouais, ça va bien.
Carrément.
Bah super, on est heureux de vous avoir avec nous.
Bah oui, c'est Noël.
Bah oui, c'est Noël, bah
forcément,
c'est
vrai. Bien.
On est d'autant plus heureux de vous avoir avec nous que c'est la fin de l'émission, Cyrielle.
Mais oui, c'est la fin de l'émission, donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
Oh oui.
Oui, oui.
Vous avez apprécié ?
Oui. On a beaucoup apprécié.
Hein, tous les deux. Hein.
Oui, on va pas se mentir. Hein.
C'était bien.
Oui.
Hein ?
Et voilà. Bah devinez quoi ? On revient lundi.
Tout à fait, lundi, pour la deuxième semaine de vacances qui nous réserve plein de surprises et le meilleur de surécoute.
La rédaction vous souhaite un excellent Noël. À très vite, profitez du week-end
pour faire ce que
regarder
vous voulez.
Des films cucu de Noël, par exemple.
Tout à fait, notamment, oui. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ah. Et passez un bon moment.
Ouais.
Au revoir tout le monde.
Joyeux Noël.
Salut.
Salut.
I know a bloke who knows a bloke. Who knows a bloke. Now you know this bloke. This is a bloke you know.